des sang-froids et les imagitateurs du JDR présentent.
Les Terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
On va partir de l'enregistrement au cas où qu'ils se disent de quoi d'intelligent.
Et Chris, tes probabilités sont faibles.
T'attends de nous qu'on dit des trucs intelligents.
Tu peux l'arrêter tout de suite, l'enregistrement.
Mais c'est surprenant, il était déjà parti, puis il n'y a rien vu. Donc, c'est dit.
Il est-tu parti, l'enregistrement?
Oui, depuis un bout, même.
Poil tout vulve.
C'est parti.
Non, mais c'est sérieux, t'as bu, donne-moi ta drogue, elle a l'air bonne. Tu planes complètement.
Ouf! Ah! Oh. Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous?
Bien!
Ça va, Eric?
Oui, ça va! On est là pour la finale, l'épilogue, et vous êtes presque tous réunis pour la première fois, et je tiens à vous remercier d'avoir embarqué dans l'expérience des Chroniques de Babel et d'avoir sauté dans l'inconnu, parce que c'était vraiment ça, hein? Pas de guide, pas de référence, on avançait dans une jungle hors sentier. J'aimerais ça commencer par Thomas, notre seul absent, malgré lui. Il y a trois jours, Thomas a quitté le Québec après près de 3 ans pour retourner vers la France pour un poste d'enseignant. Donc, merci à Thomas et bonne chance. Et inquiétez-vous pas, on va entendre Thomas dans cette finale. Et on va même terminer Babel avec une interprétation en chanson, s'il vous plaît, de Thomas. Parce que j'ai lancé un défi et qu'il a savamment et brillamment relevé. Donc, vous allez entendre la merveilleuse voix de Thomas pour quitter cette saison 1 de Babel, n'importe quoi.
Bon, que de surprise.
Oh oui, c'est rester jusqu'à la fin juste pour ça. On reste juste pour ça, finalement. Hey, un gros merci à Danny, hein, surtout pour son engagement. Parce que pour Danny et Christophe, ben, c'était pas facile de jouer et de s'impliquer à des fréquences de jeu là, espacées. Et pourtant, Danny y arrivait. Et en 5 secondes, il sautait dans les bottes de Cal Shaddim. Pis c'est comme s'il avait quitté le personnage la veille. Un gros merci, Danny, hein, d'avoir interprété ce capitaine, maintenant commandant.
Ben oui, merci Eric pour l'expérience. Quand moi et Christophe, on avait eu, au bout d'une ou deux sessions qu'on avait joué ensemble, et on avait appréhendé un peu de la même façon les Chroniques de Babel comme étant plutôt un défi d'interprétation qu'un défi de jeu de rôle en soi. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à interpréter Cal Shaddim et j'ai eu beaucoup de plaisir à envoyer des vacheries à peu près à tous les joueurs. voilà.
Ça, tu trouves toujours ton plaisir.
En tout cas, tu m'as donné du trou dans ma scène que je voulais faire, en tout cas.
Que oui.
Mais non.
Et que voulez-vous? Un gros merci à Christophe, notre parachutiste, parce que c'est le cas de le dire. Christophe qui a été littéralement catapulté dans l'aventure en mi-saison, sans repère, hein, parce que il n'y avait pas les épisodes 1 à 10 là, pour se faire une idée. Là, c'était pas monté. Et c'est un peu la raison pour laquelle là, j'ai décidé de le mettre dans un huis clos avec Danny et non de le propulser dans un bac à sable là, qui aurait pu devenir un bac à sable mouvant. Merci Christophe hein, d'avoir laissé le projet Babel prendre vie sur ta chaîne. On peut le dire, Christophe a des... Comment vous dites ça en France? Des roubignoles?
Ouais, des roubignoles, ça se dit, oui, effectivement.
Okay. Allez, un gros merci Christophe.
Mais je t'en prie, hein, ça m'a fait très plaisir. Et j'aimerais rebondir sur la remarque de Dany. Non, c'est vraiment du jeu de rôle que nous avons fait, après tout, en incarner nos personnages. Et ce qui était bien, c'est que c'était le défi de l'incarnation de personnages. On savait qu'on allait être porté par ton histoire, et l'important, c'était de se concentrer sur nous-mêmes pour essayer d'en donner le meilleur. Et voilà, donc merci à toi.
Et on continue les remerciements avec Andréane et son indomptable Ygritte, hein, personnage de composition ou biographie. Là, il y a pas mal seulement les voisins d'Andréane qui pourraient y répondre, s'ils sont toujours vivants. Andréane, ça a été notre petite fraîcheur de spontanéité dans les chroniques de Babel. Ça a été vraiment cool. Un gros merci aussi d'avoir oublié tes quelques réticences face à l'actuel play et d'avoir plongé avec nous. Un gros merci, Andréane.
Ben, merci à vous autres de m'avoir laissé participer à ça. C'était une belle expérience. Ça faisait différent des autres jeux de rôle aussi.
Oui, puis à part les scènes que t'as fait... à part les scènes que t'as joué avec Dani, t'as pris beaucoup de plaisir, hein?
Oui, c'est ça! J'étais beaucoup moins frustrée, mais dans le fond, c'était très personnage du grit, là. Il m'a mis dedans à 100 000 à l'heure, là. Chantais la rage, j'ai la colère. Ah oui, j'étais prête.
Et je termine avec Angie. Angie, ben à toi, ben, je te remets la médaille du courage, hein, lui qui me supporte depuis des années dans mes changements de cap, dans mes expériences.
Oui, oh!
Hey, c'est quoi le record? C'est quoi le record? Je pense dans une campagne, on a changé 3 fois de système en cours de route.
Ouais, ouais,
je pense
ouais,
que c'est mon record. Hein?
ouais, c'est quelque chose. Écoute, moi comme Andréane, j'avais des réticences au début à embarquer dans l'aventure, mais le gros chèque m'a fait changer d'idée, puis je suis pas déçu.
Oh, Andréane qui va négocier. T'aurais pas dû dire ça. Arrêtez.
J'avais ma part.
Un gros merci, Angie, d'avoir insufflé à ton personnage de Solomon ce code d'honneur qu'on lui aime bien. Êtes-vous prêts? On est là pour l'épilogue. Et on va commencer moi, avec toi.
Oui, vas-y, juste une chose à clarifier avant, par exemple. Ben, c'est quoi l'histoire du gros chèque? Parce que moi, j'ai payé pour être là.
Mais c'est ça, en fait, t'as payé Angie.
J'ai été payé aussi par Eric. Hein? C'était pas mal d'ailleurs. Hein?
Ouais, bon, ben écoute, je me sens un peu niaiseux.
C'est évident, on est passé à côté.
Il a dû nous payer avec ton chèque, en fait.
Effectivement. Ça. Un gros merci à Dany pour avoir.
Pour son chèque.
Oh, bon, ok, on va se remettre. Dans le sérieux, on va commencer avec Solomon.
Chapitre 1. Nos pères.
Solomon. Suivant les recommandations de l'enténébreur Griva sur l'île de Pike, dans les archipels des îles de Fer, vous avez signalé à l'équipage de la veuve de la voile noire que vous vouliez rapidement quitter leur capitale pour gagner le Dominion. Vous y êtes. Sur la côte de la province mère, Orlyon. Au loin, les voiles du navire ferné qui vous a conduit disparaissent peu à peu sous la ligne d'horizon, emportant le soleil mourant avec lui. Vous êtes tous les quatre autour d'un feu que tu aurais pu allumer là, d'un claquement de doigts avec la ténèbre, Solomon. Mais Ygritte a arrêté ta main. Tu as compris qu'elle se sentait prisonnière sur le navire et inutile. Maintenant, la jeune Guanac a besoin de se changer les idées et de se reconnecter avec la nature et la forêt. Tu lui as donc laissé le soin de s'occuper du feu. Et j'ai dit quatre parce que Almadès, le beau fleurant, est avec vous. Ayant,
boy.
Ben oui. Hein? Vous...
J'en serais passé de lui.
Qu'est-ce que tu veux? Il est tâche comme ça. Ayant récolté quelques babioles appartenant à la civilisation perdue des anciens bâtisseurs, ben, ce dernier n'avait aucune raison de s'attarder sur les îles de fer, surtout avec l'ambiance là, de mécontentement qui y régnait après la victoire écrasante contre Euron Swan et le capitaine Neuf-Doigts. Alors que vous êtes autour du feu, Solomon, tu vois Kenan et Ygritte pratiquement se lever de concert pour aller chercher du bois. Seul avec Almadès, qui se trouve assis de l'autre côté des flammes, tu agites les braises du bout de ton bâton. Et la caméra zoome lentement sur ton visage, aux traits pensifs. Avant votre départ des îles, l'enténébreur Griva est venu te voir, alors que tu t'apprêtais à franchir la passerelle de la voile noire. Nous retournons vers ce moment. Frère Solomon, l'enténébreur est là, les mains croisées devant son ventre, affichant un air satisfait. Les rois m'ont envoyé effacer une partie de votre mémoire, celle concernant leur plan d'invasion du Dominion. Toujours un peu surprenant cette voix jeune pour un vieil homme.
Et vous avez l'intention de leur désobéir si vous m'en parlez?
Effectivement, je n'en ferai rien. Je n'ai pas oublié qui je suis et d'où je viens. Je suis natif de la Brette. Ce n'est pas la province d'Orléans, ni même Florenza, mais nous sommes du Dominion. Et vous pouvez les prévenir. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Le Dominion est menacé par tout le monde, de toute manière. Mais je dois vous avertir d'une chose, Solomon, alors que vous repartez chez vous. C'est Démosthène, l'enténébreur royal du Dominion, qui a organisé votre emprisonnement et qui a fait forger les menottes qui vous coupaient de la ténèbre. Le saviez-vous?
Ben, je n'en suis guère surpris.
Sachez que c'est lui aussi, curieusement, qui a livré l'information que vous étiez encore en vie. Démosthène a organisé votre incarcération, mais aussi bizarre que ce soit, c'est également lui qui a manigancé pour vous libérer. Je tenais à vous le dire.
Et merci, Griva, et souhaite bonne chance sur ces îles.
Bonne chance aux Dominion. Je crois que vous en aurez besoin. La grogne, elle augmente tout autour de vous. La caméra est à nouveau sur toi, près du feu. Dans les flammes que tu agites du bâton, tu revois maintenant les visions de Mali, qui la partage avec toi. Les cavaliers carapassonnés de rouge, chevauchant des montures peintes en rouge également. Tous avec des cheveux blonds, sauf les deux cavalières en tête, leurs cheveux rouges flottant au vent, massacrant le village de Mali avec un seul objectif en tête, trouver le loin voyant. Que penses-tu de cette vision, Solomon?
Honnêtement, je crois que ça fait partie de cette espèce d'entreprise-là qui a été faite sur le globe, d'éliminer tous les loin voyants pour faire en sorte que la prophétie soit ignorée de tous et se réalise. Mais en fait, ce que Solomon se rend compte surtout, c'est que alors que jusqu'à aujourd'hui, ses ennemis étaient des hommes comme lui sur un champ de bataille, eh bien, dorénavant, le combat va se faire contre des êtres surnaturels et il va avoir besoin de toute l'aide qu'il va pouvoir trouver parce que, bien qu'il craint aucun homme sur cette terre, ce qu'il a en face de lui est inconcevable et probablement indestructible.
Ton visage chauffé par les flammes revient à la caméra alors que l'on te devine perdu dans tes pensées. Et on a un cote et on se retrouve ailleurs, dans des cachots. Là, messieurs, parenthèse et madame, je vais vous laisser des décisions ce soir, des grosses décisions qui vont grandement influencer la saison 2. Autant c'est des décisions qui peuvent être prises par votre personnage, autant que je peux m'adresser directement aux joueurs derrière le personnage. Deux hommes se font face. On retourne à ce cachot. Deux hommes se font face. L'un prisonnier, mi-cinquantaine, cheveux courts, barbe grise, un peu crasseux, mais bien nourri, qui dévore le contenu d'une gamelle. Le deuxième est libre et observe l'autre manger. Ce dernier est drapé de riches vêtements et son visage sévère n'exprime aucune émotion. « Vous ne pouvez pas me retenir ainsi prisonnier, constamment, Démosthène !» se plaint le détenu en levant ses yeux de sa pitance. « Je ne suis peut-être plus le connétable du Dominion, mais j'ai encore quelques influences. Ma femme et ma fille doivent être mortes d'inquiétude et peut-être même penser que je suis mort depuis le temps que vous me retenez ici. » On va sur Miro et je te montre l'image, Solomon.
C'est Popa.
Effectivement, vous. Et là, on voit... Donc, Tanis Santagar, hein, ton père, Solomon, que tous croyaient mort, repousse sa gamelle et se dresse pour faire face à l'enténébreur royal du Dominion. Seuls les barreaux les séparent, alors que les deux hommes se jaugent, l'un avec le regard féroce et l'autre totalement indifférent. « Je vous jure que si vous vous entêtez à me retenir ici, vous le paierez de votre vie !» Démosthène le regarde, froidement.
« J'ai réussi, Santagar. Votre fils est revenu au pays. »
Ton père, Solomon, accuse le coup comme s'il avait reçu une lame dans le ventre, reculant, chancelant. « Mon fils est mort !»«
Non, Seigneur Santagar, devant la vision de l'avenir que tous les devins et loin voyants ont partagé, nous en ténébreurs et en ténébreuses épaulant les souverains de Babel, nous devions prendre une décision. Nous étions partagés, mais la majorité m'ont suivi. J'ai fait en sorte que votre fils disparaisse de l'équation. Mais après 4 ans, j'ai mesuré le flou de l'interprétation de ses visions. Rien n'est sûr. Une chose est certaine cependant. Il a un rôle à jouer. J'ignore lequel toutefois. J'ai donc fait en sorte qu'il revienne. Je vous ai fait passer pour mort et j'ai révélé au Ferné que les Maisons-1 le détenaient encore en vie. L'incompréhension se lit sur le visage de ton père. Son regard est vitreux, mais sa bouche muette est tordue de haine. Ah oui, l'enfant chéri du peuple, le jeune héros militaire revient. Enji, c'est à toi que je m'adresse, et non à Solomon. Je vais te donner un poids énorme pour la suite des choses. Démosthène a emprisonné ton père, et je te dirai environ depuis 2 mois. Pour l'enténébreur du jeune roi du Dominion, est-ce que la vie de Tanis Santagar est encore importante? C'est l'un des plus grands stratèges militaires que le royaume a connu. Certes, peut-être même meilleur que toi. Mais est-ce que Démosthène peut avoir espoir de rallier ton père à sa cause sans courir le risque de subir les représailles pour ses manipulations?
Je crois qu'il est manipulable dans le sens que auparavant, on s'entend que pour avoir mis le feu aux îles de fer, avoir massacré autant de civils, c'est un homme qui recule devant rien, mais qui est manipulable parce qu'il l'a été par le roi Marcus Irimonde. Par contre, honnêtement, je vois pas comment Démosthène pourrait être certain qu'un homme déterminé comme ça finirait pas par le trahir, à moins d'avoir un levier incroyable sur lui.
C'est toi qui choisis, c'est Démosthène, élimine ton père.
Je crois que oui.
Dis-moi, ton père qui a fait périr par le feu des milliers de gens dans la capitale de Pike, sur l'île de Fer, ne serait-ce pas là juste un juste retour des choses qu'il périsse par les flammes, dis-moi?
Probablement. Je connais pas trop la personnalité de Démosthène, mais c'est sûr qu'il y a un lien à faire là-dedans.
Les flammes commencent à naître sur les doigts de Démosthène et je te laisse nous décrire qu'est-ce qui se passe. Tu as fait ton choix.
Tanis Santagar a au début une crainte en voyant ces flammes-là, une crainte qui l'a suivi toute sa vie suite à ce qu'il a fait sur les îles de fer. Le cri de ces innocents-là qu'il entend quand il voit les flammes. Mais il comprend rapidement que c'est lui qu'elles vont venir chercher. Et c'est pas la peur de sa propre mort qu'il redoute quand il voyait le feu, mais plutôt la culpabilité. Et cette culpabilité-là, cette fois-ci, s'envole quand il voit les flammes parce qu'il sait qu'il va enfin en être délivré. Et il a aussi un soulagement parce que Démosthène aurait pu se servir de lui pour faire du mal à Solomon ou même pire, faire du mal à sa femme et sa fille dans le but d'y faire à lui toutes sortes de choses. Donc, il accepte et lorsque les flammes qui viennent le lécher se mettent à monter, évidemment, il crie de douleur, mais il n'a pas peur et il part en guerrier. Je verrais bien qu'au moment où Démosthène peut-être s'approche même de la cellule, hein, savourant ce moment-là, de voir Santagar, qui est une boule de feu, debout, à ce moment-là, peut-être voir une main en feu sortir d'entre les deux barreaux, le surprendre et qu'il l'agrippe, lui laissant une marque permanente sur l'avant-bras.
Oh, une marque de sa culpabilité à venir?
Peut-être.
Oh, je crois pas Démosthène. Est-ce qu'on a un fond du noir sur ces flammes?
Oui.
T'es-tu prête, Ygritte?
Yes!
Chapitre 2. Nos pères.
Ygritte, la réserve de petits bois pour le feu diminuant toi puis Kenan, vous vous êtes mis en quête d'aller en chercher d'autres. Chacun de votre côté, quittant la chaleur et la lumière du feu, tu te donnes aux ombres que la nuit fait grandir dans la forêt. Après avoir passé plusieurs jours à vivre en commune, dis-moi, Ygritte, cette solitude en nature, est-ce qu'elle te fait du bien?
Énormément.
Je suis pas du tout étonné. Hein. Après tout, la moitié de ton âme est louve et sauvage. Donc, tu profites du moment. Est-ce que tu prends ton temps? Est-ce que tu profites du moment?
Oui, ben, je me perds un peu dans mes pensées, là. J'ai des flashbacks du spectacle du combat de Solomon qui me revient en tête, la raison de ma venue, puis ma meute qui me manque de me retrouver en forêt. Puis beaucoup de questionnements, en fait, dans la tête d'Ygritte en ce moment.
Je vais en profiter pendant que tu es en train de me remuer toutes ces idées-là. Je veux savoir une chose, Ygritte. L'actée, la louve avec laquelle tu partages ton âme, t'a révélé que la rage qui s'agite continuellement en toi ne s'apaisera jamais, car ta condition humaine n'apprivoisera jamais totalement la part de loup en toi. Comment te sens-tu par rapport à cette triste découverte, car tu es parti justement à la recherche du frère Solomon pour calmer cette rage qui t'habitait? Payer ta dette de vie envers lui devait t'aider, mais maintenant, tu le sais, ça ne changera rien. Cette rage va toujours rester en toi.
Ouais, ben c'est avec beaucoup de frustration, en fait, que Ygritte a déjà l'information... Cette information-là, en fait, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là, loin de chez elle, dans le fond. Elle se dit, est-ce que tout ça, c'était pour rien? Quoi faire pour la suite? C'est vraiment, en fait, elle se déplace en cherchant du bois, plus ou moins. C'est plus qu'elle est perdue dans ses pensées, puis elle se retrouve en forêt, là, où est-ce qu'elle est bien, là.
Ces petits bois sont un peu représentatifs de tous ces lambeaux de pensée que tu essaies de rassembler.
Ah, c'est si beau.
Ça, c'est tellement poétique. Ah, l'acte et à sa pensée, hein, à cette louve, ton cœur s'affole, commençant à battre la chamade dans ta poitrine. Devant toi, la forêt disparaît pour en faire apparaître une autre. Tu vois par les yeux de la louve, sur un surplomb rocheux, 15 membres de ta meute de loups observent nerveusement la vallée qui s'étend plus bas. Le campement endormi de l'aube grise, ta tribu d'adoption, y repose. Ton père adoptif, Chétan, s'y trouve. Ygritte, tu le sens. Les oreilles dressées, l'actée, la louve alpha de la meute, ta moitié, celle qui partage ton âme, est agitée et gémit en scrutant au-delà du paisible campement où tout le monde dort. Elle ressent un danger terrifiant. Dans la sombre forêt, quelque chose avance, menaçant, rampant, salivant de sentir la vie tout près. Oh, Ygritte, Ygritte. L'actée ignore ce que c'est, bien que son instinct lui hurle de fuir. Mais toi, à travers ses yeux, tu vois et tu sais ce dont il s'agit, n'est-ce pas? Un brouillard grouillant de tentacules et des silhouettes humaines martyrisées à travers. Des choses à quatre pattes aussi. Tu sais ce que c'est, hein?
C'est dégueulasse.
Ouais. Ygritte, un choix s'offre à toi. Cruel, j'en ai bien peur. Ton père adoptif est dans ce campement. Et ce campement n'a aucune chance. Il est condamné. À moins que les 15 loups n'interviennent. Mais s'ils le font, 9 d'entre eux mourront. Il ne restera que l'actée et 5 autres loups, et 2 louves et 5 louveteaux laissés plus loin. La survie à venir pour la meute sera précaire si tu fais ce choix. Donc, tu as vraiment 2 choix. Laisser ton père Chétan et toute la tribu mourir et voir l'actée fuir avec ta meute en sécurité, ou ordonner à l'actée, par toute la force de ta volonté, d'aider le campement et de sauver ainsi le quart de la tribu, ton père compris, mais au prix d'une bonne partie de la meute de loups et des problèmes de survie qui surviendront ensuite.
Je sais, je ne suis que le chroniqueur de cette belle histoire de princesse et de fée, c'est pas moi.
Non, 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 t'étais un gros salaud, tu veux dire?
Ah, c'est une pourriture, je confirme, là, il est pas pire.
Chétan, ce père adoptif qui t'a recueilli à 10 ans, que fais-tu? Lactée et nerveuse. Les 14 autres loups se collent à elle. Ils sont sur le surplomb. Ils voient ce brouillard approcher.
En fait, j'ai une question. C'est justement, là, cette patente-là, après avoir décimé le village, rien ne les empêche de s'attaquer aux loups.
Oui, mais ça va pas aussi vite qu'une meute de loups.
Ah, OK. Fait que les loups peuvent se sauver.
Oui,
okay.
Effectivement. Je suis retard, mais pas à ce point-là. Je ferais pas mourir.
En fait, ça aurait été beaucoup plus facile de prendre la décision.
Ouais.
Parce que, tu sais, je veux dire, ils vont se faire décimer de toute façon, aussi bien aller aider, tu sais, tu comprends?
Oui. Non, s'ils interviennent pas dans le campement, ta meute est sauve.
Les loups ou les humains?
Et je pense que je vais... Moi, ben, en fait... Ouais, dans le fond, je vais demander à Lactée qu'elle aille aider parce que de toute façon, j'avais des plans dont je ne t'ai pas parlé parce que hein, c'est du jeu de rôle. Puis, fait que ça suit quand même les plans que je voulais faire.
Donc oui, les loups vont intervenir, vont réveiller les humains, vont se mêler au combat et 9 d'entre eux vont périr, ainsi que le 3/4 de la tribu. Mais ils vont réussir à fuir. Le monstrueux brouillard n'est plus. Hein? Il est passé à travers le campement et poursuit sa marche funèbre. La caméra s'approche du campement. La forêt est toujours là, mais elle ne vit plus. Plus d'oiseaux, plus de rongeurs, plus d'insectes. Quelques tentes se dressent encore ici et là, marbrées de sang. Mais aucun corps ne jonche le sol. Que des cendres, de la poussière de chair, de muscles et d'os. On te retrouve à nouveau dans la forêt, Ygritte, sur la côte de la province d'Orléans, figée, les bras chargés de petits bois pour le feu, déchirée entre le désir d'aller retrouver ta meute et celle d'honorer ta dette de vie auprès de Solomon. La caméra est dans ton dos, captant ta paralysie et ton doute. Verrons-nous Ygritte prendre une décision ou la caméra se ferme sur un fond du noir?
Ah non, non, je te règle ça, moi, c'est certain.
Okay. Qu'est-ce qui se passe, Ygritte, dans cette tête?
OK, alors, Ygritte, je sais pas si elle a pu, en fait, assister à la scène où elle a... une espèce de sentiment de tout ce qui s'est passé par rapport à la décision qu'elle a prise, mais en fait, c'est vraiment décidé qu'elle se dirige avec le peu de bois qu'elle a réussi à ramasser dans la forêt, pensive comme elle est, avec les événements qui viennent de se passer. Elle se dirige vers le feu, puis elle se dirige vers Solomon pour lui adresser qu'elle pourra pas respecter en fait son serment là. Faut qu'elle s'en aille.
Très bien, on pourrait se laisser justement avec toi qui comment ça sort devant lui alors que là t'as vécu un paquet d'émotions là, tu as vécu cette attaque par les yeux de Lactée, tu as ressenti sa rage, sa peur. Alors j'aimerais bien voir cette scène alors que tu arrives avec ton petit bois dans les mains et que tu annonces. Et on va se terminer là. On verra pas la réponse. On va peut-être juste voir le regard de Solomon, mais juste.
On va voir la réponse.
Moi, j'aime bien l'actrice qui dit au réalisateur, non, là, tu vas me filmer de même, là. Puis tu vas fermer ta gueule, là.
Écoute, Danny a payé un gros cachet pour voir Ygritte jouer. On va la laisser jouer. Alors, on veut te voir approcher de ce feu, Ygritte.
Je suis même prêt à en rajouter s'il faut.
Oh!
Make it rain!
Yes!
OK, alors j'imagine bien sortant de la noirceur de la forêt, s'approchant doucement de la clarté que le petit feu procure aux alentours, une aigrette un peu sur les nerfs ou très décidée, mais pas totalement assumée de peur de la réaction de Solomon, en fait, mais elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire, puis elle jette littéralement le petit bois au sol et regarde Solomon droit de son œil qui lui reste et lui dit je vais partir, je dois retourner auprès de ma tribu et je ne pourrai pas respecter notre pacte de sang. De toute façon, après le combat que auquel j'ai assisté, je vois mal en quoi je pourrais t'aider pour te sauver la vie.
Okay. Je te regarde le plus sérieux du monde. Ce que tu as vu dans l'arène, c'est moi face au champion des îles de fer. Mais comme tu as pu le constater l'autre nuit, ce qu'on a en face de nous, c'est des créatures surnaturelles. Tu dis que tu veux être délivré de ton serment. Ton serment, tu me dois ta vie. Si tu veux qu'elle te revienne, très bien. Mais pour cela, il va falloir que tu me combattes et que tu gagnes. Sinon, mourir parce que ta vie m'appartient.
Aux paroles de Solomon, il grite surtout à penser, en fait, à sa meute, à qu'est-ce qu'elle vient de faire, à qu'est-ce qu'elle a demandé à l'acter, puis tout ce qui se passe, on sent en fait en elle la rage plus présente que jamais, cette espèce de moitié loup qu'elle essaie en fait de faire taire depuis qu'elle a été élevée par eux, puis que comme si qu'elle n'était pas assumée parce qu'elle a en même tant envie d'être acceptée par sa tribu, les Guanacs. C'est d'un seul œil que Ygritte le regard sérieux et on peut voir en fait cet œil littéralement se transformer, devenir d'un jaunâtre doré, très prêt à tout en fait, pour qui a plus peur de rien, qui maintenant c'est réglé, c'est là que ça se passe. Elle va littéralement sortir ses griffes. En fait, ce pouvoir-là va se mettre en mode berserker, va utiliser également son pouvoir de vitesse parce qu'elle sait que contre Solomon, après qu'est-ce qu'elle a vu dans l'arène, elle n'a pas le choix de tout donner. Puis c'est probablement vers une mort certaine qu'elle se dirige, mais qu'elle n'a pas le choix de s'essayer en fait pour sa meute, sa tribu, puis sa vie finalement. Puis c'est d'un. On pourrait la voir prendre en fait avant de s'élancer sur Solomon. Je la verrais bien prendre une espèce de position à quatre pattes. C'est une position littéralement de loup là, qui est sur le point d'attaquer puis qui se prépare à se propulser pour se lancer sur sa proie. Donc elle prend cette position-là puis s'élance sur Solomon en lançant un cri mélangé de rage, de désespoir puis de détermination à faire tout ce qu'il faut malgré que c'est couru d'avance.
Danny, as-tu lancé un 1000$ pour que ça, c'est quoi?
Écoute, je suis en train de demander un accordé. Je suis le projet.
Hey, les amis, on pourrait fermer la caméra là. On regarde ça pour la saison 2. On commence avec ça ou on.
Je le laisserai pas sur cette position-là, mais plus je ferais un black, un cut, là, littéralement, quand elle lâche son cri, puis elle s'élance vers Solomon, là, comme si, OK, il va se passer quoi? Il va-tu la transpercer de son épée en 2 secondes d'écart? Ou la bouche ouverte, comme si elle allait prendre une croquée, les griffes en l'air, prêtes à l'empaler s'il le faut. Là.
Et c'est là que ça se ferme.
Ouais.
Très bien. On s'en va faire un tour vers la côte de Mézo. On s'en va voir notre commandant Cal Shadim.
Est-ce qu'il est... Je t'écoute.
Est-ce qu'il est prêt?
Ah, il est très prêt.
Il est rendu pauvre, mais il est prêt.
C'est ça.
Chapitre 3. Nos pères.
De retour sur le territoire mézoïen. dans la cité portuaire de Nippur. Nous voyons d'abord notre commandant, Kalshadim, qui chevauche sa monture, au pas, donc lentement, dans les rues du port. Et à sa droite, Lake, conduisant son cheval à deux foulées derrière lui. 8 cavaliers de la garde de Nippur vous accompagnent, trottant derrière vous. Lake, alias le père Guilhem de Baskerbourg, semble songeur, contrarié même. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Il y a 3 jours, la lumière a été faite sur le meurtre du commandant Jamel Curiga, innocentant Kalshadim. Aussi, le grade de commandant t'a été officiellement remis lors d'une cérémonie assez intime, Kal, présidée par le vizir de la ville. La nouvelle ayant fui, toute la population des bas quartiers a fêté l'événement. Durant 2 jours et 2 nuits, les quartiers pauvres ont vibré du son de la musique et l'alcool a coulé à flot. Dans les demeures plus nobles, par contre, tu comprendras que ce fut tout le contraire. On parle d'une nomination comme de cette domination là, comme d'un danger pouvant faire effondrer le royaume. Le soleil fait flamber la ligne d'horizon et l'eau de l'océan brille d'un orangé incendiaire, alors que vous vous dirigez vers l'endroit où devrait être ancré le navire La Marée Rouge, de retour après 1 mois. À ton passage, commandant Kalshadim, il y a plusieurs passants. Comment te saluent-ils? Est-ce que certains vont jusqu'à scander ton nom, voire même vouloir te toucher? Tu es devenu un symbole pour eux. Raconte-nous, Kal.
Oui, les gens qui connaissent pas le commandant vont le héler, vont lui envoyer la main, mais au passage, commandant qui restreint, même refroidit à certains ardeurs à un moment donné, juste en saluant de la tête d'une façon plus sobre les gens qui me saluent ou quoi que ce soit, ce qui fait que la foule est beaucoup plus excitée en amont qu'en aval, donc à partir du moment qui a passé, ben on dirait que c'est plus calme, on dirait que ça refroidit un peu, la fierté reste, mais l'espèce d'excitation est tempérée par le stoïcisme du capitaine.
Et ça, ben c'est une de tes forces aussi, de transmettre ton énergie. T'as toujours transmis ton énergie à tes hommes, et voilà que tu transmets cette énergie à la foule, alors que on en voyait qui était surexcité, qui tassait même, qui jouait un peu des épaules pour essayer de te toucher, peut-être toucher ta botte. On voit qu'à ton regard, ça change les choses.
Ça incite une certaine noblesse d'action. Le commandant aime à penser justement qu'il est une force qui est une force calme, une force qui amène une discipline autant à ses officiers qu'à des supporters dans la rue qu'il ne connaît pas du tout.
Très bien. Alors que les couleurs du navire La Marée Rouge apparaissent au loin, lui qui est amarré au quai, on entend la voix de Zifa en off, une lettre que vous avez reçue de lui hier en provenance de Sumeria, la capitale mésoène. « Commandant Shadim, très cher Lake, le retour du navire du capitaine John Tenbal nous apprendra un peu plus qu'est-ce qui est arrivé avec le duel judiciaire du frère commandant Solomon. À partir de ces informations, vous pourrez débuter la traque. Je suis à peu près certain que Kenan ne sera pas sur la Marée Rouge. Après tout, c'est moi qui ai veillé à éveiller son esprit d'aventure. Si Solomon a survécu, ce que je ne doute pas, Kenan l'aura sans doute suivi sur le sol du Dominion. À deux, vous serez mieux à même de débarquer et de progresser discrètement sur ce territoire sans être repéré. Et qui de mieux que les Fernés pour vous faire accoster furtivement sur leurs côtes. À cette fin, vous avez un coffre rempli d'or, assez pour louer le navire du capitaine Timball et survenir à vos besoins pendant plusieurs mois. Un autre village est tombé, et aussi s'ajoute la disparition d'une compagnie entière qui patrouillait sur les côtes. Le temps joue de plus en plus contre nous, messieurs. Nous comptons sur vous. Si ces phénomènes étranges sont reliés au frère Solomon, sa mort nous sauvera tous. Avec l'or, une pierre pont.
C'est un trésor inestimable. Des rois vendraient la moitié de leur royaume pour en posséder deux. C'est un prodige des anciens bâtisseurs. Elle permet de communiquer instantanément sur de longues distances. Comme vous ne maîtrisez pas la langue des anciens bâtisseurs, vous ne pourrez pas rentrer en contact avec moi et Maître Moon. Mais nous, nous le pourrons. Commandant, en tant que loin-voyant, j'ai vu une infime partie de votre avenir. J'ignore si vous sortirez vivant de cette mission qui est de ramener le jeune Kenan Karaman et d'éliminer le danger que représente le frère Solomon, ou si vous mourrez tout simplement de vieillesse dans votre lit dans une quarantaine d'années. Mais sachez que votre nom, lui, ne mourra jamais. À jamais, il sera inscrit dans les chroniques du peuple mésoïen. Je l'ai vu. Prenez soin de vous deux. Et bonne chance, mes amis. Alors que le soleil n'est plus qu'un souvenir, ne laissant qu'un ciel rosé dans le sillage de sa chute, vous arrivez près de la marée rouge. Près d'un mois te sépare Cal du départ de Solomon, Kenan et de la guanaque qui les accompagnait. Il y a beaucoup d'activités sur le pont, comme si le navire s'apprêtait à lever l'ancre. Le capitaine John Timble voit votre petit groupe approcher alors qu'il est sur le pont. L'homme de haute taille, à la barbe noire et généreuse, appuie ses deux larges mains là, sur le bastingage de son navire. Vous surplombant, il vous lance avec un mince sourire. « Vous êtes en retard d'un mois, capitaine. Ce n'est pas peu. »«
Ah, et ce serait plutôt vous qui êtes en avance d'un mois. Vous attendais, moi, mais vous êtes parti rapidement la dernière fois. »
Je suis désolé, une offre qu'on ne peut refuser. Ah, tu vois qu'il plisse les yeux. Commandant, pardon. Il fouille dans le revers de sa veste. J'ai le témoignage du jeune scribe mésoïen avec moi, en trois copies.
Mais malheureusement, vous n'avez pas ramené l'auteur avec vous, à ce que je vois.
Non, ils ont pris un navire, la Voile Noire, en destination du Dominion.
C'est regrettable.
Je n'ai pas le contrôle sur les citoyens mésoïens, commandant.
Eh bien, je vous souhaite fortement d'avoir plus de contrôle sur votre navire que sur certaines des missions qui vous sont attribuées, mon ami. Mais passons, tout cela est du passé maintenant et nous devons regarder vers l'avenir. Une autre mission nous attend. Serez-vous en mesure de exécuter ce pour quoi je m'apprête à vous rémunérer ou plutôt me trahir comme la première fois?
La trahison est une question de point de vue, commandant. J'ai dans le regret de vous dire que mon navire a déjà été loué. Il y a une heure, par un homme. Vous auriez dû arriver plus tôt. Vous manquez toujours le bateau de la sorte, commandant? Et un mince sourire.
Il semble en effet que ce soit une habitude. Mais dites-moi, qui est ce commanditaire imprévu?
Tu vois que le capitaine tourne la tête à sa droite et tu vois la silhouette d'un homme qui s'avance. Vêtu d'habits noirs, mésoïen et une capuche. En contre-jour, le ciel rose agonisant dans son dos, là, impossible de distinguer son visage. Tu vois qu'il vient s'installer près du capitaine, tout près de la passerelle qui donne accès au navire.
Vous voulez partager la location de ce navire? Nous voguons vers le Dominion.
Il me serait agréable de connaître l'identité de mon hôte si d'aventure j'acceptais votre invitation.
Tu vois qu'il s'approche de la passerelle. Il reste sur le navire, à son extrémité.
Il se découvre?
Oui, lentement il se découvre. Barbe grisonnante, ses yeux, cette force dans ce regard. On va sur Miro, je dévoile l'image.
Je tournerai la tête rapidement pour voir si je verrai pas un désenténébreur qui me fait encore mais quelle est cette blague cruelle que vous me faites? Qui est cet homme? Qui êtes-vous?
Tu me raconteras comment tu as eu ce prestigieux grade de commandant, mon fils. Il est temps de réellement commencer ton entraînement, mon garçon.
Et là, tu reconnais toute la prestance de Bakar Shadim, ton père.
Je pense qu'il y a une espèce de duel froid de regard qui se fait à ce moment-là, parce que jadis, qu'elle aurait détourné le regard, qu'elle aurait baissé les yeux, mais c'est plus le garçon, c'est plus le... En fait, ce n'est plus son garçon. Maintenant, c'est rendu le capitaine Kal Shadim qui a traversé des épreuves et qui a une volonté et un caractère trempé, d'acier trempé. Donc, il soutient son regard avec une... Mais on sent qu'il y a un défi, il y a une compétition à l'œuvre présentement. Mais Kal est pas...
Et je pense que je vais intervenir.
Vas-y.
Sentant la tension qu'il y a entre les deux personnages, et si je ne m'abuse, je ne le connais pas, moi, cet inconnu qui est sur le bateau et qui l'a loué. Je regarde Kal et je lui dis « Capitaine Shadim, je sens une tension entre vous et cette personne. Tout comme, je ne sais pas, c'est très un petit quelque chose de familier. »
Bien, sachez, étranger, que c'est commandant Shadim et votre regard ne faillit pas. Voici Bakar Shadim, mon père.
Ouh, la traversée va être très intéressante.
Ça, pour une des rares fois, nous sommes d'accord.
Et tu vois ton père se reculer, comme pour te laisser le passage afin de grimper sur la passerelle. On pourrait avoir un fondu là, à moins que vous vouliez continuer. Et là, je vais t'offrir ce fameux...
Le choix que je n'ai jamais eu.
Oui. Ambition. Nous sommes au cœur du désert, dans la riche capitale Mézoen, Sumeria, souvent appelée la cité Lapis-Lazuli des Sables. Au palais, l'enténébreur royal, Moon, est assis, penché sur une table, à écrire des directives qui partiront aux quatre coins du royaume de la côte de Mézo. Elles concernent les mesures à prendre pour combattre le mystérieux mal qui s'en prend au village isolé. Concentré et surtout habité par un sentiment de sécurité, Moon ne perçoit pas la présence dans son dos. Une silhouette qui franchit la porte et avance lentement à pas feutrés et mesurés. Une dague à la main, le jeune bossu, à l'apparence de vieillard, avance silencieusement. Zifa. Dany, c'est à toi que je m'adresse, et non au commandant Kal Shadim. Tu as incarné le personnage qui a le plus souvent croisé Zifa, l'apprenti enténébreur de Moon. Zifa admire le commandant Kal Shadim depuis tout jeune, une véritable fascination, et il aspire à faire comme toi, à monter vers les plus hautes sphères de son environnement. Certes, c'est Moon qui a sorti Zifa de la rue, transformant le bossu sur lequel tout le monde se défoulait, mais Zifa n'est pas dupe non plus. Il sait que Moon l'a surtout recueilli à cause de son don de loin-voyant, devenu rarissime avec leur mystérieuse disparition. Et l'on sait que Zifa n'hésite pas à prendre des décisions à l'encontre de son maître. Il a caché le livre qui aurait pu révéler l'identité de Père Guilhem de Baskerbourg. Car si Moon l'avait su, il aurait sans doute tué Guilhem, même après son changement de personnalité. Parce que le père du Dominion a souvent contrecarré les plans politiques de Moon en sol étranger. Dis-moi, Dany, est-ce que Zifa va planter sa lame dans le dos de son maître afin de devenir l'enténébreur royal du roi Azim? Et pas de retour possible. Si jamais Zifa ne le fait pas là, il ne trahira jamais Moon.
Je pense que Zifa s'avance à pas de velours, voyant son opportunité de le faire. Une pensée l'arrête dans son mouvement alors qu'il arme son bras pour donner le coup fatal et sceller son destin. Une pensée lui traverse l'esprit. Il pense au commandant Kal Shadim. Et une seule chose lui vient en tête. Est-ce que le commandant respecterait un homme qui assassine dans le dos son supérieur par ambition? La réponse est flagrante. Il sait très bien que le commandant ne respecterait jamais un homme qui irait assassiner quelqu'un dans le dos. Et cette pensée lui fait faire un pas de recul, et il va ranger sa dague.
Très bien.
Quel homme, ce Kalshadim, il arrête les bras des assassins même en étant absent.
On le dit, son aura est incroyable. Alors qu'il marche vers la marée rouge, il va jusqu'à influencer Zifa de la sorte. Mais c'est très bien amené. On continue. Zifa se présente près du roi, qui est sur une immense terrasse qui domine la capitale. Assis, le roi Azim étudie de nombreuses cartes étalées sur une longue table devant lui. Depuis ta dernière rencontre avec lui, Cal, il y a plus d'un mois, le roi a beaucoup maigri et des cernes débordent de ses yeux pour dévorer une partie de ses joues. Il semble vraiment tendu. En voyant Zifa, le roi se lève.
« Moon a été trop loin. Voilà plus de 100 ans qu'il sert notre royaume. » Mais il prend désormais trop de liberté. Sa manipulation envers la famille Karaman était de trop. J'ai vraiment cru que les Karaman de la capitale allaient s'en prendre à Bérine. Je pensais bien faire en envoyant Kalshadim le tuer avant que les Karaman de la capitale ne frappent. Mais c'était faux. Moon a tout orchestré. Le roi frappe du poing sur la table, faisant voler quelques cartes.
Zifa se penche et en ramasse une ou deux et se redresse.
Vous n'avez rien à vous reprocher, mon roi. Moon ne voulait pas prendre aucun risque concernant Bérine. En tuant le père, il envoyait le fils Kenan auprès de Solomon pour l'espionner et peut-être même réussir à le tuer. J'ai agi avant Kalshadim. Moon m'a envoyé tuer Bérine Karaman et maquiller le tout en suicide. Devant ma ténèbre, Bérine n'avait aucune chance.
Et là, on voit la colère déformer un peu plus les traits creusés du roi.
Un suicide, Zifa. Toi et ton maître, vous avez fait d'un héros de guerre un lâche. Shadim doit retrouver Kenan. Le fils doit laver l'honneur perdu de son père que mon aveuglement a provoqué.
Le roi se retourne pour fixement observer Zifa.
L'as-tu fait? As-tu tué Moon?
Zifa baisse la tête.
Je n'ai pu m'y résoudre, mon roi. Je lui dois tout. Par les tempêtes du désert.
Lake.
Présent.
Ouais.
Chapitre 4. Nos pères.
Christophe. Je te fais commencer directement par le choix.
Ouais. Okay? Allez, fais péter.
Le complot. C'est la nuit. Et nous sommes dans une petite chapelle des quartiers pauvres de Blanchelys, la capitale du Dominion. Une trentaine de prêtres de l'Ordre du Savoir attendent l'arrivée de leur leader secret. Ce sont des pères, des évêques et même des archevêques. Il y a plus d'or sur leur soutane que dans la bourse d'un noble. L'endroit est sombre, éclairé par quelques cierges seulement. Et soudain, le son de pas dans les ténèbres qui enveloppent le cœur en haut de quelques marches se fait entendre. Puis, une voix s'élève.
« Bienvenue, mes frères. Notre attente va bientôt prendre fin. Le plus prestigieux des défunts, le dernier empereur de Babel, va bientôt renaître à la vie. »
L'homme dans l'ombre approche un peu plus, dévoilant une toge sombre qui l'habille. Les couleurs sobres de la cellule de la page blanche. Ton ordre, père Guilhem de Baskerville. L'homme reprend.
Les soupçons qui pesaient sur nous pour les détournements de fonds sont écartés. Baskerbourg éloigné, nous avons à nouveau le champ libre. Le stratagème que j'ai mis en place a fonctionné. Personne ne pourra soupçonner ce que j'ai fait et qui je suis et ce que nous sommes.
L'homme fait deux pas, offrant son visage à l'éclairage jaune des cierges. Dis-moi, Christophe, l'homme derrière les détournements de fonds, et cet homme qui prétend vouloir faire revenir un défunt, car votre foi, c'est la foi des défunts, vous croyez en ceux qui vous ont précédé, les membres de la famille, il s'apprête à faire revenir un défunt prestigieux, qu'ils appellent le dernier empereur. Qui est-ce? Qui est cet homme qui a tout manigancé? Est-ce que c'est ton
C'est le père Siméon, je peux te le dire tout de suite. Je te le dis tout de suite. C'est mon meilleur ami qui fait croire qu'il a une dégénérescence, tout ça, qui fait croire à sa, à son, son, sa maladie et son, son handicap. Et qui, en fait, c'est pour paraître faible et ainsi pouvoir mieux manipuler sans être inquiété, sans être, je dirais, soupçonné. C'est lui.
Il s'est sorti du jeu grâce à la maladie. Il est assez, est-ce qu'il est assez intelligent pour ça?
Bien sûr, mais même il a faim, la maladie.
Alors, on connaît l'un des visages ennemis de Blanchelys. Très bien pour ce choix, bien vu. De retour sur la côte de Mezzo, dans le port de Nippur. Un petit retour en arrière. Lake, en compagnie de des 8 cavaliers, le commandant Kalshadim et toi chevauchés vers l'ancrage de la marée rouge. Plus la distance augmente entre toi et le repère secret de Moon, là où vous avez été caché pendant près d'un mois, plus ton malaise grandit et comprime ta poitrine. Alors qu'il ne reste que des lambeaux de souvenirs dans ton esprit concernant le jeune frère Matty, tu peines néanmoins à le faire sortir de tes pensées. Il y a quelques jours, vous avez retrouvé ses vêtements souillés sur le sol trempé de sa cellule. Matty avait disparu. Rendu sauvage et fou à cause du sang de Kalshadim, le jeune homme était devenu une loque à peine humaine. Que ressens-tu à l'idée d'une part de quitter la côte de Mezzo et de revenir, de revoir les terres du Dominion? Bien que revoir, c'est un bien grand mot parce que t'as peu de souvenirs du Dominion. C'est fragmenté, c'est même presque étranger. Que ressens-tu en ce moment, Lake, alors que tu t'approches du navire?
Eh bien, je pense qu'après avoir constaté la disparition du frère Matty, qui est une sorte d'étranger pour moi, mais auquel je me sentais quand même lié pour une raison qui m'échappe, je pense que je l'ai quand même cherché, profitant de la gloire qui auréole le commandant Kalshadim. J'ai pu avoir un petit peu plus de liberté. Alors, je suppose qu'il y avait toujours quelques gardes avec moi pour me surveiller. Après tout, je suis quelqu'un du Dominion. Mais je l'ai cherché. Je suis allé à divers endroits de la cité. J'ai posé des questions. Parce que il aurait pu, quelque part, peut-être que j'avais le fol espoir de trouver en lui, que ça me réveille justement des souvenirs. Mais malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Alors maintenant que je me dirige vers le navire qui va me ramener vers le Dominion, je me pose des questions. Est-ce que c'est mon destin? Est-ce que je vais pouvoir là-bas reconstituer qui je suis, ce que je suis? Peut-être. En tout cas, si le destin m'a mis sur le chemin de Kalshadim, qu'il doit y avoir une bonne raison, une très bonne raison. Après tout, j'ai cru comprendre que je cherchais ce Solomon aussi.
Ah, il y a un lien entre tes souvenirs, ton ancienne mission et cette présente mission, c'est la même.
Effectivement, il y a quelque chose et quelque part étant de nature quand même assez curieuse, eh bien, je me laisse un petit peu porter. Et je suis toujours en train de réfléchir, j'essaie de reconstituer les morceaux. Aussi bien les morceaux de ma vie que les morceaux des événements.
Lake, le tourbillon de tes pensées là, est si turbulent là, que tu perçois à peine ce qui se dit entre le capitaine Ferney et Kalshadim une fois que vous êtes arrivé près du navire La Marée Rouge. Et alors que tu descends de ton cheval et que tu tends les rênes aux soldats qui vous accompagnaient, tu as vu Kalshadim se figer devant la passerelle, devant cet homme vêtu de noir. Et on te voit intervenir, poser des questions. Mais rapidement, tu te fais saisir à nouveau par ce tourbillon de pensées qui s'agite en toi.
Le père et le fils.
Fais une voix puissante dans ta tête, Lake, si forte qu'elle avale la réalité, effaçant le monde autour de toi.
c'est maintenant des ténèbres qui t'entourent. Père Guilhem de Baskerbourg, tu refais surface. Tu sens l'emprise se relâcher autour de toi. Et l'homme de savoir que tu es reprend lentement le contrôle de son corps après plusieurs jours enfermé à l'intérieur. Lake n'est plus là. Alors même que tu ressens cette liberté, une vision t'assaille. Tu es endormi dans la petite pièce que t'avais aménagée Zifa dans leur repère souterrain. Comme toujours, ton sommeil est agité. La caméra s'approche vers ton cou, près de l'étoffe, et on voit les veines noires remonter vers ton visage et palpiter, comme si le mouvement du cœur pulsait dans ton réseau sanguin. Tu t'étais aperçu il y a quelques jours que il y avait des veines noires qui étaient sorties sur tes avant-bras, que tu as cachées à Kalshadim, cachées à Zifa. Et ces veines noires-là t'ont inquiété parce que la vision que t'a partagée Zifa, on voyait un brouillard attaquer un village avec le commandant, le frère Solomon qui était devant. Et les êtres qui étaient dans le brouillard avaient aussi ce genre de veines noires. Alors que tu t'agites hein, de plus en plus sur ta couchette, dans une autre pièce, Matty panique dans sa cellule, se tenant la gorge à deux mains, incapable de respirer. On voit de la vapeur s'échapper de son corps et lentement des lambeaux de chair, comme des flocons, s'élèvent de lui et flottent hors de sa cellule. Matty tombe à genoux, son corps maintenant sans chair, dévoilant les muscles rougis. La panique dans ses yeux, un cri muet, prisonnier dans sa bouche ouverte en une grimace de douleur. Les flocons de chair, de muscles et bientôt d'os flottent dans les airs et sortent de la pièce, jusque dans ta chambre, Père Guilhem de Baskerbourg. On les voit venir à toi, cette cendre humaine, comme un brouillard, et elle vient se coller à ta peau pour être aspirée. Et au fur et à mesure que ta peau se délecte du corps cendreux de Matty, alors que tu dors toujours, les veines noires se résorbent et disparaissent. Enfin, ton corps cesse de trembler et l'on perçoit le bien-être d'étendre les traits crispés de ton visage. Presque un sourire. Dans l'autre pièce, seuls les vêtements de Matty tachent le sol.
Comment croyais-tu que... « Je gardais ton corps en vie, Père Guilhem. »
Fais une voix dans ta tête. Tu es toujours entouré de ténèbres, les plus sombres. Plus de navires, plus de ports, plus de Shadim.
« Qui est là? Qui êtes-vous? Nommez-vous! Montrez-vous! »
« La graine a été plantée. Vous n'avez plus besoin d'être un simple spectateur, Père Guilhem. »
Tu es toujours plongé dans ce noir, et cette voix est tout. Cette voix est ton univers. Lorsqu'elle parle, tout tremble.
Qu'est-ce que vous voulez de moi? De quelle graine parlez-vous? Je n'y comprends rien.
Je suis son serviteur, l'un des quatre prophètes annonciateurs de son retour. Autrefois, il y a de cela 1000 ans, Babel était sous le joug d'un seul empereur. Pas de guerre, pas d'agitation. L'ordre et la loi. Mais le dernier empereur a été trahi par ses conseillers. Lâchement assassiné, alors qu'il fut le plus grand empereur de tous. Despote le nommait-il, tyran crachait certains. Il ne comprenait pas sa vision de l'avenir pour Babel. Mais sa volonté était indestructible. Il était né pour régner. Même dans la mort, le dernier empereur s'est illustré. Il règne maintenant depuis des siècles sur le royaume de la non-vie. Mais ce royaume ne suffit plus. Grâce à sa volonté... Et notre foi en lui, nous, les quatre plus puissants nécromants, qui étaient morts, nous sommes revenus et nous préparons son retour, le retour de l'empereur mort.
J'avoue que je reste abasourdi. Hein,
et là, toi, tu es le père Guilhem.
Ce que j'entends.
Et tu, oui. Dans les écrits, tu l'as entendu. T'as entendu, c'est presque des légendes. Mais il y a 1000 ans, c'était pas la guerre des rois de Babel. Il y avait vraiment des empereurs qui régnait sur tout le territoire. Donc ça résonne pour toi, ça résonne une note de vérité, mais à la limite, parce que plusieurs même au sein de l'Ordre du Savoir, pourraient parler de légendes à propos des anciens empereurs.
Dis-moi, Père Guilhem, croyais-tu vraiment que ces deux ou trois gouttes de sang de Moon qui t'a ouvert à la ténèbre, vieil homme de savoir? Tu sais très bien que ça ne fonctionne pas ainsi. Sais-tu seulement ce qu'est la ténèbre? Sais-tu le mal que vous générez tous à chaque fois que vous l'utilisez? Pauvre fou, si vous saviez. Ce n'est pas plus le sang de Kal'Shadim qui t'a sauvé. Tout au plus, son sang t'a suspendu entre la vie et la non-vie, plus longtemps, me laissant le temps d'intégrer ton corps. Maintenant que la graine est plantée, elle pousse. Je peux partir. Tu es prêt. Tu seras bientôt prêt à le recevoir.
Ok, là je reste abasourdi.
C'est toujours un sentiment de... Il y a un sentiment de crainte. Cette présence-là, cette voix-là, c'est comme une concentration de peur, Père Guilhem. Même si tu es un homme très cérébral, qui se protège avec son intellect, tu sais que il y a rien de normal dans qu'est-ce qui est en train de se produire là.
Tournant le dos à l'ère des empereurs, vous avez tous oublié son nom, mais bientôt vous tremblerez à sa seule mention. Bientôt, ce sera le retour de l'empereur Actéon de Baskerbourg. Il t'a choisi, Guilhem, car son sang coule dans tes veines. Tu es l'un de ses descendants, et grâce à toi, il traversera le voile que plus facilement entre les deux mondes. Ton corps sera son nouveau vaisseau sur la terre des vivants. Considère-toi comme chanceux et béni.
Je ne serai le vaisseau de personne.
Et alors que tu
cries... J'ai mon libre arbitre.
Et alors que tu cries, Père Guilhem, le navire réapparaît. Et le monde qui l'entoure aussi. Tu as encore peut-être ton cœur qui s'affole, mais tu vois que il y a plusieurs fernés des pirates sur le pont qui se sont retournés alors que tu t'es mis à crier.
Je suis sur le port, à côté du navire. Je regarde, je suppose que je vois celui que je me souviens être le capitaine Kal'Shadim.
Commandant.
Non, mais...
Je suis commandant.
Non, capitaine.
Ouais, c'est vrai que toi, il était capitaine.
Guilhem, là. C'est Guilhem.
Effectivement. Merci de nous remettre à l'ordre, Christophe.
Et donc, et c'est la seule personne que je connais autour de moi. Enfin, que je connais. Je l'ai vu quelques heures dans ces souterrains avec cet enténébreur Moon, avec ce Zifa. Et là aussi, mes souvenirs sont fragmentés. Je regarde à droite, à gauche, et je dis Capitaine Kal'Shadim, qu'est-ce que nous faisons là? Qu'est-ce qu'il s'est passé?
Commandant Kal'Shadim, lorsque tu poses ton regard sur le dénommé Lake, il y avait une force tranquille qui sommeillait dans cet homme. Mais ce que tu vois, c'est quasiment... Il fait quasiment pitié à voir, tellement on dirait un enfant désespéré. Tu vois ses yeux qui regardent à gauche et à droite. Il semble vraiment perdu, se chercher.
Vous ne semblez pas bien, mon ami. Peut-être un peu de repos vous serait grandement bénéfique.
Oui, peut-être. Mais est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé après... Nous étions emprisonnés dans ces soubassements. J'ai été poignardé. Et où est Mati? Vous étiez là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Si cela est une blague, je la goûte que très peu.
Vous pensez sérieusement que j'aime blaguer?
Oh, baissez le ton.
Cal, tu reconnais peut-être le trait de caractère de la première fois que tu as vu cet homme attaché près de toi.
Comment est-ce que vous vous appelez?
Guilhem.
Et où est le dénommé Lake?
C'est bizarre, vous prononcez ce nom, il me semble... rien que l'entendre me vrille le crâne. Mais je ne vois pas de qui vous parlez. Non, c'est Mati que j'ai dit. Le jeune novice que j'avais avec moi.
Le jeune sur lequel est les enténébreurs ont fait leur expérimentation et qui est malheureusement de passer sur l'autre rive.
Un souvenir horrible qui me revient. Une cage, une prison, des barreaux, le jeune Matty, devenu une loque humaine. Est-ce que c'est bien vrai? Mais c'est... Et ce monde, où se trouve-t-il? Quelle est cette sorcellerie à l'œuvre?
Bon, ce n'est pas un fantasme. Ce sont de réels souvenirs, mais...
Je ne me souviens de rien.
Vos questions, peut-être trouveraient réponse chez un médecin ou chez un enténébreur, mais pas juste chez un soldat. Vous semblez troublé, mais... mon ami.
J'ai l'impression que je vous accompagne. Pourquoi sommes-nous sur le port, devant ce navire?
J'ai l'impression que vous semblez être un homme qui réémerge d'un sommeil. Pourtant, vous ne m'avez pas quitté depuis un certain temps déjà. Votre comportement est étrange.
J'ai dû être ensorcelé. Ce doit être ce Moon qui m'a ensorcelé.
Questionnez vos souvenirs. Et nous avons affaire.
Ton père s'approche de toi, Cal. Il se penche sur le bastingage.
L'ami, nous levons l'ancre vers le Dominion. Vous embarquez ou vous restez ici. À vous de choisir.
Vers le Dominion? Mais j'en viens du Dominion. Je cherche un frère du Dominion. Solomon.
Ton père te regarde, Cal, à la mention de Solomon, puis reporte son attention sur le père qui est sur le quai.
C'est en cherchant que j'avais été capturé par Moon.
Eh bien, il est reparti. Mais ce n'est pas très étonnant, car peu importe les gens que nous rencontrons qui viennent de votre pays, tous recherchent moine guerrier. Je ne sais pas ce qu'il a de si exceptionnel, mais nous aussi, nous allons le rencontrer. Et c'était le pourquoi de notre association moine.
Bakar, Shadim, ton père s'éloigne, va tout près du capitaine John Timble et lui dit « Nous pouvons partir. » Père Guilhem de Baskerbourg, que faites-vous?
Eh bien, après un petit temps d'hésitation, alors que je me concentre pour essayer de retrouver des fragments de mémoire de ce que m'a raconté le capitaine Cal Shadim, effectivement, je n'arrive pas à reconstituer les divers événements de ces derniers jours, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous lie et que ce qu'il m'a dit sur le devenir funèbre du frère Matty est vrai.
Mais alors que tu montes sur la passerelle, c'est bien ce que tu veux faire?
Oui, tout à fait.
Tu revois les images que je t'ai décrites de la mort horrible du jeune frère Matty, cette décomposition, cette chair qui se met à voler comme des flocons, la chair, les muscles, les os, et cette décomposition qui est venue se coller à toi, ces images viennent te frapper. Et tu le sais, frère Matty n'est plus. Et un frisson peut-être même te parcourt à l'idée que ton corps l'a absorbé. C'est le corps du jeune Matty qui t'a permis de maintenir ce corps qui est mort. Tu as été assassiné, Père Guilhem de Baskerbourg. Tu as été assassiné par l'enténébreur Moon et tu en prends conscience que, en quelque part, tu es une forme de cadavre. Comment te sens-tu?
Très bonne question. Je pense que je me renferme. Je suis monté sur le navire. Je fais une mine très sombre. Et pendant la manœuvre, je serai à l'avant. De temps en temps, je tournerai la tête pour regarder en direction de Cal Shadim, un regard énigmatique.
Et alors qu'on te voit, peut-être aller chercher un peu d'aide dans le regard du commandant Cal Shadim, dont tu ignores le grade, tu trouves peu de réconfort. C'est un homme stoïque qui est à quelques mètres de toi. Et nous quittons. On a un fond du noir sur ce navire qui prend le large.
Moi, je vais me permettre quelque chose, alors qu'on croit que c'est la fin. Hein, il y avait eu un fondu au noir. La caméra se rallume et on est en train de filmer le sol d'une forêt. On entend le souffle rauque de deux personnes. La caméra se soulève. On voit Solomon et Ygritte qui se font face en pleine forêt la nuit, illuminée seulement par la lune. On comprend que leur pas les a menés loin du feu où ils se trouvaient au départ. Les deux sont mal en point, échymosés, traces de griffures. Alors que Solomon avait l'intention de perdre, ben la fougue d'Ygritte a réveillé quelque chose en lui. Cette espèce de feu qui nourrit sa rage à elle a alimenté quelque chose en lui, quelque chose d'enfoui loin. Et finalement, il s'est pas laissé vaincre comme il avait prévu. Mais ce feu-là réveille quelque chose et on le voit prendre son marteau, le soulever. Maintenant, c'était comme s'il pesait une tonne et se dirigeait à nouveau vers elle.
Chapitre 5. Nos pères. Ah putain, c'est vraiment pas forcé pour les titres de chapitres, Eric.
Mon cœur est sable.
Sable, oui. Tu es sable et tu retourneras poussière et sable. Kenan, depuis que vous avez mis les pieds sur le territoire du Dominion, l'ambiance qui était déjà pas à la fête hein, semble s'être dégradée davantage. Ygritte est perdue dans ses pensées et visiblement Solomon broie du noir depuis qu'il a tué le capitaine Neufdoigt. Almadès, le fleurant qui vous a accompagné, a bien tenté de désamorcer la spirale de la sinistre atmosphère, mais ses blagues sont tombées un peu à plat et n'ont pas obtenu l'écho désiré. Ben, faut dire que l'humour fleurant, ben, c'est pas évident. Lorsque le bois pour alimenter le feu est venu à manquer, ben, tu as vu là l'opportunité de changer d'air un peu. Ygritte s'est levée en même temps que toi, pour disparaître dans la forêt de plus en plus obscurcie par le déclin du jour. Toi, tu es parti en direction de la plage pour trouver du bois flotté et t'isoler un peu. Maintenant, face à la mer, visage vers le sud, ta patrie, à quoi penses-tu, Kenan? Et que voit-on de toi?
On voit un Kenan pris dans ses pensées. Pendant un petit moment, je vais ramasser du bois flotté et puis je vais vite me poser sur la plage, peut-être sur un tronc un peu gros qui va me servir de siège. On va me voir regarder la mer au loin et le soleil couchant.
Et si on pouvait entrer dans ton esprit, est-ce que c'est assez clair pour qu'on y voit quelque chose? À quoi penses-tu?
Je repense au visage. Peut-être qu'on voit le visage de... On peut voir, je pense, le visage de Grival en ténébreur se confondre avec le soleil couchant. Je repense à lui, à la conversation que j'ai pu avoir...
Mais ça serait intéressant, ça, parce que nous, les spectateurs, ben, on se pose tous la même question. Grival, en ténébreur royal des Îles de Fer, t'avais fait une offre, celle de devenir son apprenti en ténébreur, ce qui est pas rien. Et tu es au Dominion, tu n'es pas resté sur les Îles de Fer. Donc, qu'est-ce que tu penses d'un retour en arrière, d'un petit flashback? Parce qu'on aimerait peut-être voir cette scène où tu as refusé cette offre à cet en ténébreur qui sert les deux rois. Les fermer.
On peut faire ça, ouais.
Ok, on revient. Dans la forteresse du roi de Roc, à l'avant-dernier étage, un étage qui est fouetté par le vent de la mer, Grival, en ténébreur royal, pose son regard sur l'immensité de l'océan. Te faisant dos, Kenan, toi qui es au centre de son laboratoire, qui attire sans doute hein, ta curiosité. Lui est là, à quelques mètres de toi, sur le balcon ouvert sur le fameux laboratoire. Toujours dos à toi, et de cette voix très jeune pour son âge. « Votre ami a gagné. Ce serait plus juste de parler d'un massacre. Mais avant le duel, le frère Solomon
a eu l'outrecuidance de refuser une offre du roi Gunther Timbal. Les rois Fernés ne sont pas du genre à pardonner. Je lui ai conseillé de rapidement quitter l'archipel. Il regagnera sans doute le Dominion. Il a remporté sa liberté de façon éclatante. Il se retourne vers toi, lentement, un mince sourire déformant légèrement ses lèvres. Nous ferons de grandes choses ensemble, jeune Kenan.
Riva peut voir Kenan avec le visage baissé. Je le regarde pas dans les yeux actuellement.
Tu l'entends.
Tourné vers le sol.
Ah, vous hésitez?
Ouais, c'est assez compliqué pour moi, la situation.
Tu fais plus qu'hésiter, Kenan, n'est-ce pas?
Ouais. Actuellement, Kenan avait vraiment envie de rester avec Griva, mais le fait que son ami ait réussi le duel et veuille partir...
Pourtant, t'as des bonnes raisons.
Ça lui a fait changer ses plans.
Pourtant, t'as des bonnes raisons de rester près de Griva, un enténébreur puissant avec ses connaissances, toi qui caresse un projet autour
c'est
de
ça.
Ton père.
Moi qui veux apprendre la ténèbre un petit peu plus et peut-être essayer de maîtriser la nécromancie.
Comment
essayer
tu vois
de faire revivre mon père.
Comment tu voyais lui annoncer ça, Kenan?
J'ai l'impression finalement, même si je le regarde pas dans les yeux, je sens sa présence et je sens déjà qu'il a compris en fait. Je pense que je vais juste le laisser prendre la décision à ma place en fait.
C'est plutôt qu'il va respecter ta décision. Et il te dit, en restant auprès du frère Solomon, c'est un peu votre mort que vous signez, jeune Kenan. Vous êtes conscient que cet homme ne fait que ça, attirer la mort autour de lui, n'est-ce pas?
Je sais, mais je suis obligé de les accompagner. Je suis obligé d'accompagner Solomon. Je suis venu avec eux, ce sont mes amis maintenant, je peux pas les laisser tomber. Je sens qu'ils auront encore besoin de moi.
Et là, à ce moment-là, on voit peut-être la tête de Kenan se relever, légèrement, pour affronter le regard de l'entraîneur Griva. Et Kenan, on revoit ton visage sur le bord de cette plage. On quitte ce flashback et on retourne là où tu ramassais du petit bois. Tu es assis sur ce tronc d'arbre. Ton regard est toujours accroché à cet horizon vers la côte de Mezo, ton royaume. Et tu as évoqué une pensée pour ton père, Beryn. Dis-moi, tu caresses toujours ce projet d'apprendre les rouages de la ténèbre qui pourraient ramener ton père à la vie?
Toujours. C'est un de mes buts ultimes.
Écoute, nous transportons sur les plages de la côte de Mezo, par la magie du cinéma. Un village paisible de pêcheurs où s'élèvent des rires d'enfants et le chant de femmes qui démêlent des filets. Nous sommes au dernier instant du jour et le soleil brille de mille feux à l'ouest, brûlant dans un ciel sombre qui porte les couleurs de l'orage. Les nuages semblent traîner jusqu'au sol, sur le sable de la plage. Non, pas des nuages, mais un brouillard inquiétant. Dans ce brouillard, des choses grouillent, et à travers ces horribles torsions serpentiformes qui n'ont rien d'humain, une cinquantaine de cavaliers en sortent, visages blêmes, striés de veines noires, qui palpitent de non-vie, montés sur des chevaux tout aussi morts-vivants. Un homme à leur tête, droit, fier, et un regard désormais noir et déterminé. Soudainement, on a un cut et nous nous retrouvons ailleurs, près de la cité de Nippur, en dehors des murailles de la ville, dans un jardin où se dressent ici et là des pierres tombales, un trou devant l'une d'elles. Deux jarres qui contenaient un corps sont brisées, et à travers les morceaux de poterie, un livre ouvert, un livre sur la ténèbre que tu as déposé sur le torse de ton défunt père. Un cot, nous nous retrouvons à nouveau sur cette plage, tout près de ce village de pêcheurs et de la macabre armée cachée dans le brouillard qui avance vers les innocents qui ne se doutent de rien. À la tête de l'armée, l'ex-commandant Beryn Karaman, le visage blanc sur lequel courent des veines noires, ton père Kenan. Mais cela, alors que tu te trouves toi-même sur une plage, bien loin, tu l'ignores. Alors que tes yeux sont encore arrimés à l'océan au loin, soudain quelque chose dans le ciel attire ton attention. Les étoiles dans le ciel noir. Tu vois ces dernières se mettre à bouger, dessiner de longues courses dans le firmament. Tu comprends que le temps s'accélère à une vitesse folle. Ton pouvoir sur l'emprise du cycle du temps s'est raffermi, jeune Kenan. Ton pouvoir a grandi, au point de t'échapper un peu, comme si le sable du temps t'avait glissé entre les doigts. Bientôt, à ta grande surprise, le soleil va se lever. Le temps est passé en un clignement de yeux. Que fais-tu, Kenan?
En fait, je vais être un petit peu étonné. Je sais que c'est ma volonté, puisque j'avais juste envie de rester sur la plage et que ce moment dure le plus longtemps possible. Je m'étais éloigné de l'atmosphère un peu froide qu'il y avait au campement, mais je pensais pas que j'étais capable de ça. Donc ça m'étonne un petit peu, mais finalement c'est ce que je voulais. Donc je me lève doucement et puis je repars vers le campement avec en ramassant mes bouts de bois au passage pour aller retrouver mes amis et voir si l'atmosphère s'est un petit peu détendue depuis que je les ai laissés.
Je te le souhaite. Lorsque tu arrives au feu, hein, celui-ci n'est plus qu'un souvenir de fumée agonisante qui s'élève en un mince filet au-dessus d'un tas de charbon noir et grisâtre. Almadès est là, un regard cerné qui se lève vers toi, comme si lui aussi n'avait pas su profiter de la nuit. Solomon et Ygritte ne sont pas là.
Je laisse tomber mes bouts de bois à terre et je me tourne vers Almadès. Almadès, où sont les deux autres? Où sont Solomon et Ygritte?
Comme des bêtes sauvages, ils se sont...
Des craquements de branches attirent ton attention vers ta droite. Solomon sort de la forêt, ses vêtements ensanglantés et déchirés. Il est blessé. Plusieurs longues plaies, faites vraisemblablement par des griffes. Aucune trace des griffes.
J'accours vers Solomon. Solomon, qu'est-ce qui se passe? Et je commence à m'approcher de lui pour essayer de le prendre, et de le ramener vers le campement.
Une fois à quelques pas de lui, Kenan, à sa vue, dans cette position de faiblesse, un souvenir ressurgit en toi. Dans ta villa, alors que tu découvrais le corps sans vie de ton père, l'enténébreur royal, Moon, arrivait sur les lieux. Tu te souviens des symboles dorés sur sa peau qui s'illuminaient alors qu'il les touchait d'un doigt, formant un message muet qui t'était alors incompréhensible. Le pouvoir qu'il a fait sur toi, alors, avait fonctionné. Et tu comprends maintenant la nature du message que Moon dessinait sur son corps.
« Tu tueras le frère Solomon si une bonne occasion se présente. »
Sur ton front, Kenan, un alphabet étrange et doré scintille, alors que tu avances vers Solomon. Ta main se dirige, bien malgré toi, vers la poignée de l'un de tes cimetières. Kenan, nous allons faire un jet de force mentale afin de savoir si le commandement que t'a implanté l'enténébreur Moon a toujours prise sur toi. Es-tu prêt?
Bien sûr que non. Avec tout ce que j'ai vécu, je pense que je suis capable de le contrer.
C'est un enténébreur très puissant. Si je me souviens bien, ton jet était dans les alentours de 40%. Et on va le faire encore à 40%.
40%?
Ah, oui, okay. 40% et moins. Ça te prend 20 et moins pour réussir totalement à ignorer cet appel au meurtre.
Oh my god. Mais... 61.
Est-ce que tu es prêt à vivre avec ce jet?
Pas du tout.
Non! Que se passe-t-il, Kenan, alors que tu as échoué, alors que cet ordre qui t'a été donné il y a plusieurs semaines s'infiltre dans ton esprit et explose?
Je pose mes mains, je m'approche du coup de lui. Ma première pensée est d'abord de me rapprocher de lui, de le prendre de prendre son bras au-dessus de mon cou pour essayer de le ramener vers le campement et essayer de le soigner. Mais une de mes mains le tient et puis l'autre, ma main gauche, se rapproche de ma dague hein, que j'ai sur mon...
Oh, plus en finesse et plus discret.
De manière fine, sans que je m'en rende vraiment compte. Hein. Et je sens une douleur au crâne, peut-être due à cette marque qui s'illumine de plus en plus.
Donc Solomon pourrait voir peut-être tes traits se crisper un peu. Le masque
on voit mes
se
traits
fissurer.
Se crisper. On voit peut-être mes yeux rougir de différents petits vaisseaux qui commencent à ce sanguin qui commence à apparaître et je me tourne vers lui. Nos deux têtes sont très proches. Je le regarde les yeux dans les yeux et de manière crispée, je lui dis
Je suis désolé, Solomon.
Et on voit ma main portant ma dague se rapprocher du cœur de mon meilleur ami Solomon.
Chapitre 6. Et voilà la dernière scène de la saison 1 des Chroniques de Babel. Ah, ça fait un petit quelque chose. Oh oui.
Et nous nous retrouvons devant la Dent de Roc, un mont rocheux au milieu du désert, tout près du village qu'a vu naître Kal'Shadim. Dans les hauteurs de la pierre, une grotte. Celle où le jeune Kal s'est glissé à l'âge de 10 ans. Sans le savoir, la découverte de cette grotte allait changer radicalement sa vie. En cette soirée où Kal et le père Guilhem de Baskerbourg s'approchent du navire La Marée Rouge, une silhouette s'est introduite dans la grotte. Elle marche sur les ossements qui s'accumulent à l'entrée, sans les briser, ni les faire bouger, comme si elle flottait au-dessus du sol. Une fois au cœur de la grotte, une lumière étrange d'un vert pâle permet d'identifier la silhouette comme étant un vieil homme.
« Mia, je sais que tu m'entends. Apparais !»
Aussitôt, une forme menue se dessine à quelques mètres devant lui. Une fillette dans les 11 ou 12 ans, mais avec des cheveux blancs qui lui arrivent aux épaules.
« Ah, Caliban, cher traître, comment vas-tu ? »
Caliban, l'esprit qui guide le frère Solomon dans la ténèbre, inspire.
« Je veux que tu rappelles ton chien de Kal'Shadim et qu'il laisse tranquille Solomon. »
L'enfant fait la moue.
« Le fils doit remplacer le père, il en a toujours été ainsi. Et ce n'est pas moi qui l'ai envoyé sur la piste de ton protégé. C'est encore ces guerres incessantes entre les rois de Babel et leurs misérables enténébreurs. »
Caliban avance d'un pas résolu.
« Une menace plus grande plane sur Babel, Mia. Le dernier empereur, Actéon de Baskerbourg, a trouvé le moyen de revenir et de traverser le voile entre le royaume de la non-vie et celui des vivants. L'équilibre sera rompu.
Tu voudrais que je m'associe à ta ténèbre, impie? Jamais.
Cette guerre entre la science et la magie n'a plus raison d'être, Mia. Et ce, depuis des millénaires. Shadim et Solomon, nos champions, pourraient faire front commun contre Actéon.
L'enfant sourit à belles dents.
Lorsque le plein potentiel de Kal'Shadim sera atteint, ton Solomon de pacotille ne fera que pâle figure. Va-t'en, Caliban, va-t'en, traite envers les tiens.
L'air enfoigné, le vieil homme n'attend pas son reste devant l'entêtement de la fillette et disparaît. Seule désormais dans la grotte, la jeune fille ferme les yeux. Alors que la caméra s'approche de son visage juvénile, ses lèvres commencent à formuler des mots. Mais aucun son ne s'en échappe. L'image se superpose à celle d'un autre lieu et d'un autre visage. Le pont d'un navire, celui de la Marée Rouge. Et le visage qui est superposé à celui de la fillette, c'est le visage de Bakar Shadim, le père de Kal. Les mots qu'elle murmure en silence résonnent dans la bouche du père devant son fils.
« Il est temps de réellement commencer ton entraînement,
mon garçon.
Tu me raconteras comment
tu as eu ce prestigieux grade de commandant, mon
fils.
Après avoir prononcé ces mots muets, la jeune fille sourit tout au fond de sa grotte.
T'écoutes quelle musique, là?
En ce moment, ben,
juste pour être certain.
C'est Baby Shark. Baby Shark.
Baby Shark.
Baby Shark. Non, c'est Baby Cal. Baby Cal. Baby Cal. Baby Cal. Il a retrouvé son papa. On revient sur les épaules, le voyage.
Où qu'il est beau, le bébé. Où qu'il est beau, le bébé.
Ouh, ça va être sympa. Les deux qui vont se...
Trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Libéré, délivré, je ne reviendrai plus jamais. J'ai laissé mon enfance en été, perdue dans la mer. Le sang est pour moi le prix de la liberté.